du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez
le cœur de vos fidèles et animez en eux le feu.
Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Nous prions, Dieu qui avait donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Non, je vais vous faire un peu une sélection des choses à vous dire. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Je vais passer des heures et des heures. Beaucoup de gens me disent, c'est une objection qu'on entend souvent, mais de quoi est-ce que vous mêlez, vous célibataires, que vous êtes en tant que prêtre pour parler des problèmes des couples? Ils oublient qu'on passe du temps confessionnel. Souvent, les gens me demandent, vous savez, j'ai parfois des tentations de vous marier. Et oui, ça m'arrive. Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la tentation? Je me mets au confessionnal 5 minutes. Le confessionnal 5 minutes, on perd toutes les tentations de se marier. Bien sûr, c'est un peu vrai, c'est un peu une blague, mais c'est aussi un peu vrai. Ne croyez pas une seule seconde que le mariage, c'est un long fleuve tranquille. Je pense qu'il y a deux sacrements aujourd'hui qui sont difficiles, c'est le mariage et l'ordre. Même la situation actuelle, c'est pas évident toujours d'être prêtre, c'est certainement pas évident toujours d'être père et père, mère de famille, époux. Alors, le bon Dieu est obligé de me donner à moi, prêtre, les grâces dont j'ai besoin pour remplir mon rôle de prêtre. Et le bon Dieu, pour la même raison, est obligé de vous donner à vous, parents, futurs parents, futurs époux, de vous donner les grâces dont vous avez besoin pour justement vous sanctifier dans le sacrement qui est le sacrement du mariage. Parce qu'en même temps, la prêtrise et le mariage sont des étapes magnifiques, mais ce n'est pas des étapes faciles. Et je pense que dans les deux cas, c'est un peu la même raison, c'est que dans un état de vie de ce genre, le prêtre en quelque sorte est obligé de s'effacer complètement devant la volonté du bon Dieu. Il a parole de se prêcher lui-même, il prêche que notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église lui demande de prêcher. Et c'est pareil pour un état de mariage. On dit que dans un état de mariage, la première forme grammaticale qu'il faut oublier, c'est moi je. Et c'est vrai, quand vous êtes marié, c'est plus moi je, c'est nous. Ben, c'est pas évident de passer du je au nous. Hein. Vous savez, est-ce qu'on peut dire moi je et après elle? Non, c'est pas moi je puis après elle, c'est nous. Et c'est pour ça que ça me semble être une bêtise. J'ai toujours trouvé ça complètement bête. Tous ces hommes qui insistent tant sur le rôle du chef de famille. C'est moi le chef, c'est moi le roi, c'est moi le premier, tout et tout et tout. Ils oublient complètement qu'il n'y a pas de roi sans reine. Ils oublient complètement qu'il y a en fait, je ne dis pas qu'il y a deux chefs. Bon, parce qu'il y a quand même le texte de l'Écriture sainte qui est là, ce que les femmes ont tendance à oublier. Quand je demande aux femmes quelles sont les conséquences du péché originel pour les femmes, elles sortent avec un grand sourire, vous savez, c'est enfanté dans la douleur. Et, c'est tout. Ben non, je suis désolé, il y a une deuxième partie, c'est tu seras sous l'autorité de ton mari. Pas moi, oui, vous aussi. Eh oui, mais c'est comme ça. Hein? Donc, il est indéniable que l'homme est chef de famille, mais contrairement à ce que les trois quarts des gens pensent, le fait que l'homme est chef de famille ne lui donne pas d'abord des droits, mais des devoirs. Ça, c'est essentiel, c'est exactement le travail de la Révolution. La plupart des hommes que j'ai connus, pas tous, mais beaucoup dans les milieux de tradition, parlent toute la journée de leurs droits, mais ils oublient leurs devoirs. Et donc, ce n'est pas d'abord des droits et ensuite quelques devoirs qui traînent par-ci, par-là. C'est d'abord mes devoirs à remplir. Et une fois que j'ai rempli mes devoirs, à ce moment-là, j'aurai quelques droits. C'est vrai que c'est l'homme qui est chef de famille. Mais le fait que l'homme soit chef de famille ne lui donne en aucun cas le droit de se comporter comme un brigand avec sa femme. Et donc là, il y a deux points sur lesquels je veux beaucoup insister dans cette conférence. C'est la nécessité, d'une part, pour les deux époux de se parler. Deuxièmement, la nécessité pour l'homme de faire attention à la façon dont il traite sa femme. Et là, j'utilise un peu ce que j'entends tout le temps en confessionnal, le secret de confession, mais c'est certain que beaucoup, beaucoup d'épouses, surtout pendant les retraites, on entend parler de ça, se plaignent de la façon dont elles sont traitées par leur mari. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne sais pas combien de fois. Donc la première chose qui est indispensable pour deux fiancés qui se préparent au mariage, c'est de réaliser l'importance d'avoir un dialogue. Non pas un dialogue démocratique, hein, sur un qui doit prendre une décision, les grandes décisions de famille doivent être prises par le mari, mais le fait que l'homme soit tenu de prendre des grandes décisions, ça ne veut pas dire qu'il va les prendre seul. L'Église demande effectivement à l'homme d'être chef de famille, mais un homme intelligent, avant de prendre des décisions qui ont des conséquences pour toute la famille, il va d'abord commencer par essayer de demander à sa meilleure moitié de l'aider à prendre des décisions. C'est un terme que j'aime beaucoup, c'est un terme plus typiquement américain, je ne sais pas s'il existe en français. En anglais, ils ont cette belle formule « she's my better half ». Ça veut dire « elle est ma meilleure moitié ». J'aime bien comme expression, c'est beau. Donc vous êtes, les dames, vous êtes la meilleure moitié du mari. C'est bien la meilleure, donc il y en a une autre qui est moins bonne, donc la meilleure moitié c'est vous. Bon, et c'est un peu ça, vous voyez. Donc il me semble qu'il y a deux faits très importants. La première, c'est prendre l'habitude de parler ensemble. Alors au début, il n'y a pas de problème. Hein. Les 5-10 premières années de mariage, la première année de mariage, on se parle ensemble toute la journée, on passe des nuits à discuter, à parler, on se dit tout, on parle de tout, etc. C'est pas au début qu'il y a des problèmes. C'est au bout d'un certain temps, au bout de 5-10 ans de mariage, bon, ça va, je l'aime, elle m'aime, je le sais, elle le sait, bon, mais maintenant, les doigts de pied à l'éventail, et puis on commence un peu à penser à soi. Attention, c'est là, il ne faut jamais oublier que vous allez devoir prendre le temps de parler. Et des époux qui ne se parlent plus, j'en ai vu à l'appel. À l'appel, et pas forcément des bandits et des païens. J'en ai vu à l'appel dans des milieux traditionnalistes. Des gens qui ne savent plus se parler après 10 ou 15 ans ou 20 ans de mariage. Ils ne se parlent plus. Alors, ils sont ensemble, ils restent ensemble parce que ça ne se fait pas de divorcer dans la tradition. Donc on reste ensemble. Il y a une espèce de mur de glace qui est monté entre les deux. Chacun vit une vie pour soi. C'est pas les deux ensemble une vie commune sous le même toit, c'est chacun une vie individuelle sous un même toit. Et ça, c'est des catastrophes, notamment pour les enfants. C'est comme ça que les mauvaises habitudes sont données aux enfants, qui voient ça et qui vont faire pareil après. Vous savez, il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est un fait. Hein. Lorsque les parents ne se parlent pas et ont élevé un mur de glace entre eux deux, le mur de glace, il est public, hein. Les enfants peuvent le voir. Dans la famille, tout le monde le sait. Et vous allez donner aux enfants la tentation d'agir pareil. Combien de fois j'ai vu ça dans les familles catholiques, des hommes qui traitent leurs épouses exactement comme s'ils étaient des esclaves, et d'où ça vient? Ça vient de la famille, tout simplement parce qu'auparavant, il a vu son père traiter sa mère comme ça. Et donc évidemment, après, il fait pareil. Et donc là, il y a ce qu'on appelle, ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on a un nom, ça s'appelle le devoir de s'asseoir. Dehors s'asseoir, c'est beau, c'était une formule qui était utilisée par les équipes Notre-Dame. C'est un truc complètement foireux aujourd'hui, complètement moderniste, mais il y a eu un temps, autour des années, je ne sais pas, autour des années 70, par là, il y avait les équipes Notre-Dame qui faisaient un certain bon travail au niveau des foyers. Des foyers qui se réunissaient avec un aumônier. Il y a eu d'une certaine façon, certains bon travail qui a été fait. Mais les équipes de Notre-Dame avaient un bon principe, ils appelaient ça le devoir de s'asseoir. Tous les jours, que l'époux et l'épouse prennent le temps de s'asseoir ensemble pour parler un petit peu. Il ne faut pas attendre de le faire à 23h le soir quand tout le monde est crevé. Bon, il faut le faire à un moment où c'est encore possible de parler. Je peux vous donner un conseil que j'ai découvert dans une famille, quand je prêchais à Justice Saint Ignace dans l'Oregon, l'État de Wyoming, c'est ça. Ou l'État d'Idaho, dans le nord, ouest des États-Unis, je prêchais, je dis si ça va. Et j'ai pas oublié parce que c'est un détail qui m'est resté. Je prêchais une retraite de dame et il y avait une dame qui suivait la retraite qui avait 51 ans et qui était enceinte. Bon, ça arrive quand même pas tous les matins, donc ça m'est frappé, j'ai pas oublié. Et je connaissais le mari de cette épouse, de cette dame, et j'avais remarqué qu'il y avait. Alors c'était des gens qui étaient mariés depuis, je sais pas, moins 25 ans, ils étaient des familles nombreuses déjà. J'avais remarqué qu'il y avait une très bonne entente entre les époux. Et je lui ai posé la question, je connaissais un peu, je lui ai posé la question, c'est quoi votre secret? Elle m'a répondu, monsieur l'abbé, on s'assoit tous les jours. J'avais pris comme habitude, lorsque le mari rentrait du boulot, la vie s'arrêtait littéralement dans la maison, la maman envoyait, les parents envoyaient les enfants jouer dehors, ou dans la maison, la salle de jeu de la maison, pendant un quart d'heure, ils prenaient un quart d'heure ensemble dans le salon à prendre une tasse de café, une tasse de thé ensemble. Comme ça, madame avait le temps d'expliquer un peu les différents désastres de la journée au niveau des enfants. Monsieur avait le temps de parler un peu de sa femme, des problèmes qu'il a peut-être eu au travail. Pendant un quart d'heure, ça ne durait pas plus parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire plus. Mais s'imposer un quart d'heure par jour. Donc, tous les jours, un quart d'heure. Et ils m'ont dit, on ne peut pas le faire le soir, être fatigué. On ne peut pas le faire après le repas et d'autres choses organisées. On le faisait juste au moment où mon mari rentrait, avant le repas. J'ai arrêté tout et on s'occupait de prendre un quart d'heure pour parler. Je pense que le principe est très bon. Et je vous conseille beaucoup de prendre un principe comme ça. Alors, au début, je n'ai pas besoin de vous le dire. Évidemment, quand vous avez 15 jours de mariage, comme ça, elle a des papillotes qui tremblent dès qu'elle voit monsieur. Bon, alors, tellement vous voulez la nôtre, vous n'avez plus qu'une idée, vous téléphonez 25 fois par jour et toutes les 5 minutes, vous savez comment elle va. Donc, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais c'est au bout de 10 ans. Et au bout de 5 ans, 10 ans, quand on commence à connaître les défauts du voisin, les défauts du prochain, les défauts de son mari, de son épouse, c'est là où les choses commencent à se corser. Et donc, il faut prendre des habitudes dès le départ. Hein. Faites aussi très attention à ça. Il y a plusieurs problèmes qu'on ne trouve pas dans les bouquins, hein, mais plusieurs problèmes qu'on voit dans les ménages, notamment à l'arrivée du premier enfant. Tout le monde est, tout est beau, tout est merveilleux, madame est en admiration dans son poumon, monsieur aussi, mais il y a vite des problèmes qui se posent. Parce que, avant l'arrivée de l'enfant, monsieur est unique. Il n'y a que monsieur dont il faut s'occuper, monsieur est à servir, monsieur le roi, monsieur est à servir, et madame la reine a que ça à faire, c'est s'occuper de son mari. Puis d'un seul coup, le gamin arrive, le bébé arrive. Alors là, c'est l'inverse, j'ai connu des mamans qui disent au papa, maintenant on occupe du bébé. Toi, tu restes dans un coin, j'aimerais te voir un peu de temps en temps pour causer 5 minutes, mais je m'occupe du bébé. Et la maman, toute la journée avec le bébé, et papa, il est cher à quoi moi dans l'histoire. Et ça, ça pose d'énormes problèmes dans les familles. Parce que souvent, les épouses ne s'en rendent pas compte. Donc, je dis aux épouses, aux mamans, qui viennent de mettre au jour leur premier enfant, qu'elles fassent attention à ne pas rendre le mari jaloux. Il y a de même qu'il peut y avoir un enfant qui est jaloux du petit frère qui arrive. De même façon, un mari peut être très frustré de l'arrivée de l'enfant parce que l'épouse n'a plus le droit, n'a plus le temps de s'occuper de son mari comme avant. Donc il faut que, au maximum, que le papa s'occupe aussi un peu de l'enfant, même quand il rentre du travail. Ça passe avant le rôle de la mère. Et que l'épouse soit dégoulinante de gentillesse avec son mari dans ces temps-là où, évidemment, l'enfant a besoin d'énormément de soins. C'est mieux que moi qu'un petit bébé à la maison, c'est un travail 24 heures sur 24 ou près. Bon. Le deuxième problème, j'en ai déjà parlé, donc je le rappelle, ça c'est plus à l'autre bout de la chaîne pour les ménages qui arrivent à 30 ou 40 ans de mariage. Lorsque les mamans, les épouses arrivent à la cinquantaine, en général c'est tout ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. C'est entre 50 et 60 ans que ça se passe, parfois avant c'est une catastrophe, mais il vaut mieux que ça arrive qu'entre la cinquantaine et la soixantaine, et là, il faut réagir à ça immédiatement, où des épouses, j'en ai déjà parlé, disent, moi, je ne veux plus rien avoir à faire physiquement avec mon mari, parce que j'ai plus besoin de ça. Que les épouses n'oublient pas que l'homme, lui, il en a besoin. Et donc, là, il y a un devoir grave pour l'épouse de remplir le dû conjugal, pas simplement par obligation, il ne faut pas dire au mari, bon, je te donne 5 minutes, hein, parce qu'il faut le faire, puis on voit, c'est tout. Hein. La fidélité, il faut le faire, donc on le fait. Bon, alors, j'ai vraiment autre chose à faire, dépêche-toi. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut que l'épouse fasse comprendre à son mari qu'elle est toujours son épouse, même si physiquement, elle en a moins de besoin. Ça, c'est important. Bon, l'autre point qui me semble aussi très important d'expliquer, c'est le devoir de charité dans les familles. Là, j'ai vu des horreurs dans les familles catholiques que j'ai connues, pas partout heureusement, mais c'est fréquent, il y a plus que fréquent. Il y a des époux qui crient sur leurs épouses, et des époux qui traitent leurs épouses, mais il faut voir comment. Mais vraiment des colères qui... heureusement, les voies de fait physiques sont relativement rares, mais alors, les voies de fait vocales sont très fréquentes. Vraiment, monsieur qui crie sur son épouse parce que le repas est à l'heure, elle n'est pas à l'heure, parce que quelque chose a été brûlé à la cuisine, parce qu'il y a encore une tache sur le pantalon, je ne sais pas quoi. Les épouses qui traitent littéralement, des époux, pardon, qui traitent littéralement leurs épouses comme des esclaves. Et là, il faut faire très très attention, parce que dans certains pays, dans certains milieux, c'était des catastrophes. Notamment au Mexique. Au Mexique, j'ai vu ça très souvent, parce que c'était un peu la coutume là-bas, ils appelaient ça le macho. Le macho, c'est le roi, quoi, littéralement. Madame de tête aux petits soins, presque à genoux pour le serrer. Mais j'ai connu des familles comme ça. Hein. J'en ai connu plusieurs. Mais étant assez proche de ces familles, je m'en suis aperçu. L'homme prend littéralement, considère littéralement son épouse comme un sac de patates, quoi. Vraiment comme un esclave. Et donc, je pense que dans ce cas-là, le plus important pour un homme, c'est de savoir s'excuser. On dit que le moment où on se rend compte que la catastrophe arrive, c'est le moment où un chef de famille, un père de famille n'est plus capable de dire à sa femme, je te demande pardon. Et je connais des ménages à l'appel, j'en connais, mais vraiment plusieurs, dans lesquels le mari est incapable de dire ça. Et quand une fois, parfois, ça arrive souvent en confessionnal. Vous savez, je me suis vraiment énervé avec mon épouse. J'ai vraiment été. J'avais bu un coup de trop en plus. J'ai vraiment été violent avec elle. Je pose la question. Vous avez demandé pardon à votre épouse? Je vous offre un bouquet de fleurs. Vous lui avez demandé pardon? Mais j'ai fait un truc, j'ai fait la vaisselle à sa place. Oui, mais est-ce que vous lui avez demandé physiquement pardon? Est-ce que vous avez prononcé cette phrase magique? Je te demande pardon. Sinon, vous savez, je ne peux pas faire ça. Je vous le donne qu'en pénitence. Je ne le ferai pas. Des hommes qui en sont physiquement, psychologiquement incapables. Parce qu'ils vont vous dire, je suis chef de famille, je ne peux pas faire ça. Un chef de famille qui n'est pas capable de réparer une erreur, c'est un andouille. Et pas. En plus de ça, ce n'est plus un chef de famille, c'est un monstre. Le bon Dieu n'a pas donné une autorité au chef de famille pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Le bon Dieu a donné au chef de famille une autorité pour qu'il... Il fasse passer le bon Dieu dans tout ce qu'il fait. Il faut encore que l'épouse puisse voir le bon Dieu qui agit et qui parle dans son mari. Si le mari se comporte comme un chef d'esclave, comment voulez-vous que l'épouse puisse voir le bon Dieu dans son mari?
Oui. Est-ce que c'est un péché d'orgueil dans ce cas-là? Le mari qui n'arrive pas à voir Dieu dans son épouse.
C'est de l'orgueil, c'est surtout des gens qui tombent dans le panneau parce qu'ils voient ça partout autour d'eux. C'est ça le drame. Moi, j'ai vu ça. Au Mexique, c'était commun. C'était les époux, en général, hurlaient sur leurs épouses et les frappaient physiquement. À tel point, vous allez rire, mais ça m'est arrivé une fois, une dame qui est venue me voir, c'est au Mexique, qui est venue me dire, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur Levy, il y a un problème dans mon ménage. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari m'a jamais battu. Attendez, de gracias. Vous savez, j'en ai parlé avec toutes mes amies. Toutes se font battre par leur mari, sauf moi. Quelque chose qui ne va pas. J'ai un mal fou à leur faire comprendre que ce n'est peut-être pas une obligation dans les commandements du bon Dieu pour un mari, tu battras ta femme dévotement tous les 15 jours. Non. Vous voyez, mais c'était rentré tellement dans les mœurs qu'ils ne comprenaient plus ça. C'est de l'orgueil, ça c'est sûr. C'est pour ça que je crois qu'un des. Pour un mari en tout cas. De loin, le plus important, c'est la confession régulière. Tant qu'un mari se confesse régulièrement, je dirais, ça dépend des périodes, minimum aussi une fois par mois, et même dans certains cas, un mari peut se confesser tous les 15 jours. Hein. Moins la femme, mais le mari, oui. Parce qu'il est exposé à beaucoup plus de tentations que son épouse, et puis justement, ces tentations de colère. Donc il faut qu'il soit capable de dire au bon Dieu, « Mon Dieu, je vous demande pardon », ça c'est la confession, qu'il soit capable de dire à son épouse, « Je te demande pardon ». Et je vous assure, des femmes, des épouses m'ont expliqué, m'ont dit, vous savez, mon mari m'offre des fleurs, mon mari m'offre des tas de trucs pour que je fasse le travail plus vite, en fin de compte, c'est ça, mais il est incapable de me demander pardon. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il m'embrasse, et bien, je te demande pardon d'avoir crié sur toi il y a 5 minutes. Ils me disent, monsieur l'abbé, ça, ils ne peuvent pas. Et j'ai des tas d'hommes qui me disent, monsieur l'abbé, je lui offre des fleurs, je veux bien, ça remplace le pardon. Non, ça ne remplace pas le pardon, c'est deux choses différentes. Ça, c'est la réparation. Bon, vous réparez, vous demandez pardon à votre épouse, bon, écoute, je m'excuse, j'ai utilisé des noms d'oiseaux en parlant il y a 5 minutes, mais j'étais vraiment énervé. Je te demande pardon de t'avoir parlé comme ça, et je vais essayer de ne pas recommencer. Et après, vous allez acheter des fleurs. Et vous commencez d'abord pour vous excuser. Et ça, c'est pour moi des choses extrêmement importantes. Ça crée des malaises après dans les ménages. Et on voit des tas de problèmes dans les ménages. Et je vous dis, moi, j'ai peut-être pas assez d'expérience, mais j'ai parlé une fois avec un confrère. Donc, moi, j'ai prêché l'exercice de Saint-Ignace à peu près 300 fois, peut-être un peu plus. Mais j'ai parlé avec un confrère qui les a prêchés plus de 1000 fois. Il a fait que ça pendant tout son sacerdoce. Moi, j'ai pas fait que ça. C'est la vue de l'agneau. Et qui a été pointé, qui a fait que ça, prêcher les exercices pour pratiquement toute sa carrière de prêtre. Il était ordonné un an après moi. Et lui disait qu'il y a pratiquement un ménage sur deux dans la tradition, qui marche sur trois pattes. C'est-à-dire des ménages où ils restent ensemble, matériellement parlant, mais psychologiquement parlant, c'est deux entités indépendantes. Madame est de son côté, monsieur de son côté, le plus bon mange ensemble, mais c'est tout. Mais on est dans le même lit, on a sous le même toit, mais il n'y a plus aucune, si vous voulez, interférence, je ne sais pas si je cherche un mot.
Cohésion.
Oui, c'est ça, une espèce d'osmose qui devrait passer entre les deux parents. Et souvent, les mamans me disent, c'est la seule raison, ils disent, monsieur l'abbé, mon mari ne comprend pas, il croit que, dans ce cas-là, il suffit qu'on ait une relation conjugale, et c'est tout est oublié. Mais ils disent, monsieur l'abbé, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. C'est pour m'asseoir avec mon mari, et pouvoir lui parler de certaines difficultés, et pouvoir lui parler de certains problèmes que je peux avoir en famille, pouvoir simplement échanger avec mon mari, pouvoir parler avec lui. Et dans des cas, des tas de cas, et c'est plus possible. Bon, c'est vrai, il faut avouer ce qui est, que le monde moderne n'arrange pas les choses. Hein. Et bon, quand le mari arrive à, je connais des endroits, les maris rentrent chez eux, il est 9h du soir, ils sont complètement crevés, ils ont eu 2h, 1h30, 2h de transport en commun, les conditions impossibles, ils rentrent, ils ont plus envie de parler. Plus qu'une envie, c'est de se mettre les doigts en éventail auprès du cheminée avec une chope de bière et puis tout oublier. Et bien c'est là, il faut qu'ils aient le courage de dire « Mon épouse a besoin de moi. Mon épouse a besoin que je parle avec elle. » Et je pense que c'est là où, à mon avis, l'idée de ce ménage dont je vous ai parlé, aux frontières canadiennes, hein, est bonne. C'est-à-dire le devoir de s'asseoir. Prendre un quart d'heure systématiquement comme monsieur commence à rendre du boulot. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est beaucoup de familles font ça, j'ai remarqué dans des familles nombreuses aussi, c'est vous obliger, de même qu'il faut s'obliger, je dirais, une fois par an au moins, de prendre 5 jours, je dirais, pour s'occuper sérieusement de son âme par l'exercice Saint-Ignace. Je pense qu'il faut faire un peu pareil dans les ménages. C'est-à-dire que c'est pas toujours possible de prendre beaucoup de temps parce que ça coûte cher, il n'y a pas toujours le temps et l'argent. Mais que les époux s'obligent, je dirais au moins une fois de temps en temps, même si c'est qu'une fois par an, de prendre au moins une journée ou deux ensemble tous les deux. Vous voyez, j'ai connu un ménage de très bons amis, j'ai un peu perdu de vue depuis, qui avait une très très belle famille, une famille très nombreuse, ils avaient 17 enfants. Bon, c'est une famille assez exceptionnelle, c'est sûr. C'est des très bons amis, je les ai un peu perdus de vue depuis. C'est une famille simple, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Lui était un petit technicien Perkins, le moteur diesel, là. Et il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais elle gérait très bien la maison, elle avait un sou dans ses deux, comme on dit, et elle travaillait vraiment énormément pour pouvoir nourrir la famille. Elle avait un jardin énorme, elle s'occupait de faire des concerts tout le temps. Il y avait une bonne ambiance dans la famille. Mais il y avait un truc qui était sacré chez eux, et j'avais remarqué. Tous les samedis matin, il prenait son épouse le samedi matin et il partait avec elle pendant 2 heures. Ils allaient prendre un brunch ensemble. Le brunch américain, c'est intermédiaire entre le petit déjeuner et le repas de midi. Si vous voulez, c'est un petit déjeuner un peu amélioré. Bon, ils dépensaient pas une fortune, ils n'en avaient pas. Quand ils allaient dans un restaurant un peu bas de gamme, même, parce que c'était en campagne, et là, ils allaient prendre un bon petit déjeuner ensemble. Ils passaient 2 heures ensemble, tout simplement, un peu en amoureux. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ça a aidé énormément la famille. Et les enfants le savaient. Les enfants le voyaient. Une deuxième chose aussi qui m'a beaucoup frappé dans cette famille et qui explique tous les résultats de ce plan spirituel que j'ai vu dans cette famille, qui est beaucoup, très bien connu, c'est que le mari manifestait au-devant des enfants son attachement pour son épouse. Et très souvent, je voyais, dès que les enfants, ils étaient en campagne, ils se sont fait une petite balade avec les enfants, le mari, tout de suite, prenez la main de son épouse. Alors au début, j'ai pas besoin de vous dire de le faire quand vous êtes jeune fiancé ou jeune marié, vous allez le faire tout le temps. Il faudrait plutôt vous dire, dites donc, vous arrêtez de vous prendre par la main, de faire un peu votre travail, là, il y a plein de choses qui sont faites dans la maison et les enfants grimpent au rideau. Bon. Mais au bout d'un certain temps, au bout de 30 ou de 20-30 ans de mariage, c'est les choses qu'il faut faire. Et souvent, l'homme ne s'en rend pas compte parce que l'homme ne comprend pas très facilement ces choses-là. Donc il faut que vous preniez le temps de parler pour pouvoir expliquer ces choses-là à votre époux. Et avec délicatesse. Hein. Ça, c'est des choses très, 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 très importantes. Bon, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Je n'ai pas le temps de te parler. Je suis un peu un résumé de beaucoup de choses dans cette conférence. Une chose qui est aussi très importante, c'est que vous sachiez, pendant que vous découvriez vraiment à fond, pendant votre temps de fiançailles, le véritable tempérament de votre conjoint, futur conjoint. Je dis bien le véritable, pas celui qui apparaît. Attention, nombreuses sont les personnes qui ont un double tempérament, ce qu'on appelle une double personnalité. C'est très nombreux. Bon. Et j'ai connu des catastrophes dans des ménages parce que monsieur n'a jamais été fichu de découvrir le véritable tempérament de son épouse. Et j'ai connu des catastrophes dans les deux sens. Hein. J'ai connu des catastrophes aussi parce que madame n'a jamais déterminé le sentiment, le véritable tempérament de son épouse. J'ai connu une catastrophe précise à laquelle je pense. Madame a toujours considéré que son époux était un sanguin. Et donc, elle s'est pratiquement pas beaucoup occupée de lui, parce que c'était un sanguin, bon, il rigole toute la journée, il est vexé par quelque chose, mais 5 minutes après, il a oublié. Et en fait, son époux n'était pas un sanguin. Il avait une double personnalité, sa véritable personnalité, l'époux était en fait un mélancolique. Et ça n'est jamais aperçu, jamais cherché à savoir. Et ça durait 25 ans. Hein. Et au bout de 25 ou 30 ans, mais c'était plus tout jeune. Hein. Le mari, un jour, a explosé. Explosé. Et il a dit à sa femme qui tombait des nues, ça fait 30 ans que tu me traites comme un chien. La femme me demande, mais j'ai jamais traité mon mari comme ça. J'ai pas beaucoup de temps, je m'occupais des enfants. Et vous savez que votre mari était mélancolique? Ben non, je pensais que c'était un sanguin. C'était pas un sanguin, madame, c'était un mélancolique. Alors, une des choses qui arrange un peu, c'est quand vous avez le courage de dévoiler à votre futur époux ou épouse votre véritable tempérament. C'est pas facile, hein. Parce que là, on touche à ce qu'on appelle le jardin secret, hein. On touche à des trucs très, très intimes. Et il y a beaucoup de gens qui refuseront catégoriquement de dévoiler à leur époux ou à leur épouse leur véritable tempérament. C'est un petit peu un réflexe, une espèce de réflexe de protection. On tire une espèce de coquille autour de soi pour se protéger. C'est un réflexe de protection. Mais je sais quelque chose, parce que moi c'est pareil. Moi, pratiquement personne ne connaît mon vrai tempérament. Je ne dis pas, personne ne connaît la réalité. Hein. C'est pas la peine de demander, parce qu'il y en a 4. Alors. Non, mais c'est vrai, il y a très peu de gens qui connaissent moi. J'ai une amie qui connaît mon vrai tempérament. Mais j'aime pas dire, je dis pas quand les gens disent c'est quoi votre tempérament, je ne le dis pas. Mais c'est pas facile à faire. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. Et il faut apprendre à parler. Bon, l'autre chose que vous devez aussi absolument réaliser, bon, ça c'est plus de la psychologie qu'autre chose, c'est la différence psychologique qui existe entre un homme et une femme. Ça, il faut le savoir. La femme réagit avec son cœur. Et c'est normal, et c'est ce que le bon Dieu veut pour elle. L'homme réagit avec sa cervelle en principe. Donc, il faut que l'épouse donc aide l'époux à réagir avec son cœur, il faut que l'épouse aide l'époux à réagir avec sa cervelle, et que l'époux aide son épouse à réagir avec le cœur. Vous êtes complémentaires, vous n'êtes pas égaux. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. C'est une complémentarité. L'homme et la femme sont différents, psychologiquement, physiquement, psychiquement, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Donc, vous devez vous entraider. Donc, il faut qu'un homme qui est marié aide son épouse à agir comme une femme, comme une mère, et ne pas demander et attendre d'elle qu'elle donne des choses qu'un homme est supposé donner. De la même façon, l'homme doit faire, la femme doit faire très attention d'aider son époux à agir comme homme. Et ça, c'est des choses très très importante, et beaucoup de gros problèmes dans les ménages arrivent à cause de ça, parce que surtout les épouses veulent assiste trop là-dessus, on aime, c'est bien, on est égaux. Et non, vous n'êtes pas égaux, vous êtes différents. Le bon Dieu n'a jamais demandé à un époux d'agir comme une épouse à la maison. Le bon Dieu n'a jamais demandé à une épouse d'agir comme l'époux dans la maison. Chacun a son rôle. Et si chacun a rempli son rôle, à ce moment-là, les oies seront bien gardées, comme on dit. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans les rapports entre époux. Vous voyez, c'est pas pour rien que le gouvernement, les gouvernements maçonniques et d'aujourd'hui font tout pour essayer de faire croire aux enfants, ils commencent en classe primaire, hein, de faire croire que l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux, ils ne sont pas égaux, ils sont différents. Chacun son. Alors après, on peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir qu'est-ce qui est plus important, un cœur ou une cervelle. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était ridicule. Parce que quoi qu'il en soit, il y a besoin d'un cœur, il y a besoin d'un cerveau dans une famille. En principe, le cœur, c'est l'époux. En principe, le cerveau, c'est le père. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Les deux. Quand vous avez un bonhomme qui se promène sans cœur, bon, ben, c'est qu'il est porté au cimetière. Hein. Il n'y a plus de cœur, il est mort. Quand une dame se promène sans avec un cœur, mais sans... je veux dire, il faut les deux, quoi. Et un homme qui il est nécessaire pour pouvoir simplement vivre normalement, remplir son devoir d'État, d'avoir un cœur et d'avoir une cervelle. Donc les deux choses sont importantes. Donc pour moi, de savoir qu'est-ce qui est plus important, c'est idiot parce que les deux choses sont complémentaires. Est-ce qui est plus important, l'homme ou la femme, dans le ménage? La réponse, c'est les deux. Bon, bien sûr, le bon Dieu a voulu qu'il y ait un chef de famille. Donc, dans certaines décisions, c'est évident que quand il y a des discussions qui sont... Après discussion, l'homme, je pense, a le devoir grave de demander conseil à son épouse pour des choses, même parfois des choses matérielles. Hein. C'est tout à fait normal, par exemple, j'ai vu ça dans le ménage, où monsieur décide de changer de travail sans même en avoir parlé à sa femme. C'est pas normal. Mais vous savez, ça, c'est le problème de l'époux. C'est mon boulot. D'accord, mais attention, votre épouse, il faut qu'elle vous suive. Donc, vous avez le devoir de lui en parler pour être sûr qu'il n'y a pas trop de casse. Et je crois que tout ça, c'est très, très important. Alors, il faut savoir, si vous voulez, donc, que l'épouse va d'abord réagir avec le cœur et l'homme va d'abord réagir avec la tête. Ce qui veut dire quoi? Parce que l'épouse réagit avec le cœur, elle est femme, elle va d'abord chercher à plaire. C'est normal pour une épouse de plaire. Il ne faut pas prendre l'expression dans un sens méchant, un sens de mépris. Vous savez, on a l'impression avec vous que l'épouse, elles sont là pour ça, sois belle et tais-toi. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout le sois belle et tais-toi. C'est l'épouse, le bon Dieu a fait les femmes pour qu'elles utilisent d'abord leur cœur. Donc, psychologiquement, une femme cherche d'abord à plaire. Donc, c'est tout à fait normal qu'une femme passe plus de temps qu'un homme devant le miroir. Bon, et c'est tout à fait anormal qu'un homme passe plus de temps devant le miroir que sa femme. Mais il y a un clip de se faire. C'est plus normal qu'une femme passe plus de temps à s'occuper de son extérieur, s'occuper d'avoir un minimum de coquetterie. Donc, je dis toujours qu'une certaine forme de coquetterie, c'est un devoir pour une femme. Une femme qui n'a pas du tout de coquetterie, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque. D'accord ? Bon, de même qu'il y a une certaine forme d'orgueil qui est normale pour un homme. Mais avec un équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que psychologiquement, l'homme et la femme sont totalement différents et qu'il faut faire très attention à respecter ces différences. Respecter ces différences. Entre autres, au niveau comportemental, au niveau de l'extérieur, par exemple, l'homme n'a pas besoin de beaucoup parler. Il parle beaucoup moins que la femme, souvent. Il n'a pas besoin d'expliquer. Il agit tout de suite. Une épouse, une femme, a besoin de parler beaucoup plus qu'un homme. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand des époux sont en train de discuter certaines choses importantes, il faut que l'homme donne du temps à l'épouse. Il ne faut pas que l'homme se dise, moi pour expliquer ça, j'ai besoin de 5 minutes. Donc elle n'a pas besoin de 5 minutes, je lui donne montre en main 5 minutes. Ah non. Parce que ce que vous allez expliquer en 5 minutes en tant qu'homme, il lui faut une demi-heure pour dire la même chose. Elle est bête ou quoi? Mais non, c'est pas une question de bêtise, c'est qu'elle est femme, tout simplement. La femme est réagissant d'abord avec son cœur, va avoir besoin de plus de temps pour expliquer certaines choses. Donc, un des devoirs d'État les plus importants des mariés, c'est précisément là, on dit que ça se passe, C'est-à-dire que les mariés, les époux, donnent du temps à leur épouse pour parler. Et la plupart des catastrophes que j'ai vues dans les ménages, j'en ai eu pas mal, venaient du fait que l'homme et la femme se considéraient comme absolument égaux. Ils ne sont pas égaux, mais complémentaires. Vous voyez ? Alors bon, après, vous pouvez un petit peu, je dis un peu la véritable psychologie d'une épouse. Bon, encore une fois, les épouses, par exemple, ont... en général, quand elles ont pas beaucoup de temps, parce que le mari ne leur donne pas assez de temps pour parler, donc elles vont parler, si vous voulez, avec des littéralement par énigme. Donc il faut que l'homme soit capable de deviner ce que l'épouse veut lui dire. Et c'est pas facile. Bon courage. Parce que alors là, j'ai toujours ça comme exemple, et c'est un exemple qui est dans tous les bouquins, mais c'est tout à fait vrai. Si l'homme rentre et son boulot le soir et dit à son épouse je suis fatigué, c'est vrai qu'il est fatigué, mais c'est tout, il est fatigué. Mais si vous allez embrasser votre épouse quand vous rentrez de travail, votre épouse est à la cuisine et dit oh, qu'est-ce que je suis fatigué ce soir, ça veut dire qu'elle vous demande de la sortir, c'est tout. Et vous me dites, dis donc, tu penses à m'inviter au restaurant de temps en temps? Mais non. Elle vous a dit, mais elle vous l'a dit, mais Marie du tout, elle n'a pas dit ça. Elle vous a dit qu'elle était fatiguée. Ben, elle est fatiguée, mais c'est tout. Mais non! Quand elle vous dit que qu'elle est fatiguée, ça veut dire qu'elle veut que vous la preniez au restaurant, l'invitez au restaurant ce soir. Mais elle ne va pas vous le dire. Une femme est incapable de le dire au mari. Parce que pour expliquer ça au mari, il faudrait une demi-heure. Or, elle ne l'a pas, donc elle ne dit rien et elle parle par énigme. Et ça, c'est horripilant pour les hommes. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là. Et du coup, ça crée des tas de problèmes, vous voyez. Donc, faites un petit peu attention à ça. Bon, j'avais écrit, pour ceux qui ne les ont pas eu, je vous donne, il y a quelques lunettes là sur du devoir des mariés, j'ai encore quelques exemplaires. Des lettres sur conseil aux futures épouses, donc c'est les lettres 48, 47 et 23 sur Internet, l'immense dignité de la femme. Mais je pense qu'un ménage, si vous voulez, va tenir la route dans la mesure où l'homme et la femme se reconnaissent leurs différences. Oui. Donc je crois qu'une des premières choses à faire pendant votre temps de fiançailles, c'est de déterminer votre véritable tempérament. Et de là, vous déterminerez votre défaut particulier. Et vous avez intérêt à connaître le tempérament de votre épouse, de votre future épouse, de votre futur époux, et de connaître son défaut particulier. Parce que connaissant son défaut particulier, ça va entraîner deux conséquences. Première conséquence, vous allez faire attention de ne pas la chatouiller sur ce problème-là. Parce que vous savez qu'elle part au quart de tour. Parce que c'est son problème. Bon. Deuxièmement, quand vous connaissez son défaut particulier, vous allez l'aider à ce qu'elle puisse vaincre son défaut particulier. Et l'inverse est aussi vrai. Vous voyez ? L'inverse est aussi vrai. Bon, puis une conséquence de ça, c'est que si vous pensez réellement à l'autre avant de penser à vous-même, mais vous resterez amoureux de votre époux, de votre épouse pendant toute votre vie. Et c'est une des choses qui m'a le plus frappé moi en tant que prêtre. Maintenant, j'ai passé la soixantaine, mais il y a certaines choses dont je me rends compte. Une des choses auxquelles je suis le plus sensible, c'est des ménages qui ont déjà, disons, 30-35 ans de sacerdoce, qui sont encore 30-35 ans pardon de mariage, qui sont encore amoureux l'un de l'autre. C'est rarissime. J'en ai rencontré. Mais pas beaucoup. Si vous disiez combien de ménages j'ai rencontré en 35 ans de sacerdoce, de ménages qui sont encore, monsieur est encore amoureux de sa femme, madame est encore amoureux de son mari, après disons 35 ans de mariage, je ne pense pas que je puisse dépasser les 10 doigts de la main. En 35 ans. C'est quand même pas normal. J'en ai rencontré, mais pas beaucoup. Notamment, j'en ai rencontré quelques-uns aux États-Unis. Bon, un autre détail qui me semble très très important, c'est ne vous disputez jamais devant les enfants. Vous avez le devoir grave de protéger le principe d'autorité de la maison. Donc, une épouse doit faire très attention de ne jamais se disputer avec son mari, pareil pour monsieur, devant les enfants, et de jamais, jamais critiquer l'autorité du mari devant les enfants. Parce que ça, alors, pour détruire le principe d'autorité, c'est idéal. Des petites phrases assassines du genre « Bon, tu peux le faire, t'inquiète pas, je dirai pas à papa. » Alors ça, pour détruire l'autorité du mari, c'est l'idéal. C'est comme vraiment, si vous prenez un coup de couteau, vous le balancez dans le... Vous lancez un couteau dans le dos de votre mari, c'est pareil. L'enfant, c'est des phrases qui restent, qui rentrent dans sa cervelle, Bon, je peux faire n'importe quoi, maman me couvrira. Et à ce moment-là, vous serez responsable de ça. Il va garder cette mauvaise interprétation pendant toute sa vie. Une fois qu'il se marie, il fera pareil. Ça peut entraîner des catastrophes. Voyez. Donc, s'il y a un point sur lequel vous devez vraiment parler pendant vos fiançailles, c'est oui, c'est ces points-là. Ils sont très importants de ne jamais, jamais critiquer monsieur, le papa, devant les enfants. Ça veut donc dire de faire très attention, de ne pas agir de telle façon que vous ne soyez pas critiquable. Bon, il peut y avoir des divergences, on peut avoir des divergences. Et là encore, vous savez, c'est très très rare d'avoir encore des ménages dans lesquels il n'y a jamais eu, comme on dit vulgairement, des grosses engueulades. J'ai connu des ménages, hein. C'est rare, mais j'en ai connu quelques-uns, mais ils ne se sont jamais attrapés. Jamais attrapés. Pourtant, ils n'étaient pas forcément d'accord, ils ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais ils ne se sont jamais attrapés à cause de l'immense respect mutuel qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et ça, quand les enfants voient ça, c'est la meilleure éducation qu'on peut leur donner. Là, ils comprennent ce que c'est qu'un mariage, un ménage. Je connais un ménage comme ça aux États-Unis, et des enfants que je connaissais bien, étaient des jeunes adultes. J'ai deux cas comme ça, deux ménages que je connaissais très bien aux États-Unis, sont devenus des bons amis. Les filles me disaient, c'était une mère de famille, elles étaient donc là, elles avaient trentaine, et elles me disaient, papa a toujours traité maman comme une reine. Et j'ai toujours vu ce monsieur traiter son épouse vraiment comme la reine de la maison. Et les enfants me disaient, monsieur l'abbé, on n'a jamais, jamais, en 30 ans, parce que 25 ans qu'on a passé sur le toit maternel, paternel, on n'a jamais entendu mon père élever la voix de sa maman. Jamais. Bien sûr que ça, ça vaut des bouquins d'études. Parce que les enfants peuvent à ce moment-là voir ce que doit être une union conjugale. À ce moment-là, on voit la paix et la joie dans ces familles, et c'est dans ces familles-là qu'en général, immédiatement, il va y avoir des vocations, il va y avoir des tas de bonnes choses qui vont sortir, parce que justement, les enfants, les parents ont fait très attention de sauvegarder le principe d'autorité. Vous voyez, on peut prendre une comparaison, vous allez comprendre. Lorsque la Révolution va travailler sur un peuple, sur les intelligences, la première chose que la Révolution va faire, c'est détruire les premiers principes. Surtout le principe de causalité. Une chose n'arrive pas à son cause. Principe d'identité, principe de non-contradiction, et surtout le principe de causalité. Lorsque le principe de causalité est détruit dans une âme, l'âme est bonne pour la casserole. Bonne pour la casserole, il n'y a plus rien à faire, parce que l'âme n'est plus capable de remonter aux sources. De la même façon, dans une famille, le principe d'autorité est le principe qui va gouverner toute la famille. Pour que l'enfant puisse voir le bon Dieu derrière ses parents, il faut que le principe d'autorité soit respecté. Si ce principe d'autorité est respecté, à ce moment-là, la famille tourne. C'est très important. On le disait beaucoup en vie religieuse. On appelait ça la clôture interne. Clôture interne, c'était... Mon Seigneur a insisté là-dessus au séminaire, il a raison. On avait une clôture interne au séminaire, c'est qu'il disait il y a des problèmes internes de la maison. Je parle des problèmes d'ordre familier qui arrivent dans une maison religieuse, ça les croche entre deux personnes, des petites impatiences, des choses comme ça qui sont un peu inévitables. Et il nous disait tout le temps, ça c'est clôture. Et ça doit rester entre nous, ça ne doit jamais sortir à l'extérieur. Jamais sortir à l'extérieur. Vous voyez, c'est... Bon, c'est l'allégorie, si vous voulez, c'est l'image de Noé qui s'enivre devant ses enfants, et deux de ses enfants couvrent immédiatement, il s'est dénudé parce qu'il est ivre, il découvre là, il ne connaissait pas les conséquences du vin. Donc, deux de ses enfants protègent sa dignité, oui, et ce qu'on appelle le voile de Noé. Donc, il est capital de placer un voile de Noé sur l'autorité, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que des choses très graves, c'est autre chose. Mais il ne faut pas que ça sorte. Malheur, ça c'est souvent le problème des épouses, attention. Épouse, on papote, on prend un tasse de thé avec une amie, et vous êtes deux amis ensemble, là, vous discutez, et on commence à critiquer le mari. Et c'est pas bon du tout. Il faut préserver le principe d'autorité dans les rapports avec vos amis, ES ou IS, et pour protéger le mari. Vous voyez, j'admirais ça, c'est rare, mais j'ai vu ça quelques fois. Je suis à des défauts comme tout le monde. Vous connaissez beaucoup de gens sans défauts, vous ? Bon, votre mari, c'est pas forcément Saint-Joseph. Il y en a eu qu'un, il a déjà été pris. Hein. Bon, mais votre mari, c'est des défauts comme tout le monde, vous aussi. Tout le monde a ses défauts. Et bien, j'ai admiré dans certaines, certains ménages où les gens disaient, ce ménage-là, on n'arrive jamais à savoir ce qui se passe dans la famille. On a l'impression que tout est parfait dans la famille, il n'y a jamais une dispute entre eux, je suis sûr qu'ils en ont, mais on n'arrive jamais à obtenir que madame nous parle, quand on prend une tasse de thé ensemble, que madame nous parle des défauts de son mari. On sent très bien que c'est ce qu'on appelle la culture interne. Une espèce de respect, dans le bon sens, pour préserver l'intimité conjugale, on ne parle pas des défauts de son mari. Ça, c'est 14, je dois actuellement faire très attention, parce qu'il y a Internet. Hein. Internet, c'est une catastrophe pour ces trucs-là. Parce que souvent, avant, les gens ont moins discuté autour d'une tasse de thé. Bon, c'était relativement, c'est-à-dire plus fermé. Maintenant, les gens chatent, comme ils disent, ils papotent sur Internet. Alors, j'ai connu un cas, un ménage qui a été complètement détruit à cause de ça. Parce que monsieur a commencé à se rendre compte que sur Internet, sur son compte Facebook, pourquoi, madame se permettait des critiques ahurissantes contre le mari. Et dévoilait sur son compte Internet, dévoilait tous les défauts de son mari. Et quand le mari a découvert ça, mais c'était un coup de couteau dans le dos. Et ça, c'était le début de la fin pour ce ménage, il ne serait jamais enlevé. Donc, faites attention. Bon, une chose aussi qui est très importante, je vais finir par là, parce que je vais en le chapeler. Une chose qui est aussi très importante, c'est la nécessité de prier ensemble. Il faut trouver le moyen de prier ensemble. Ça, c'est très important, si possible, par exemple, trouver le moyen de garder le chapelet ensemble. Commencer à prendre l'habitude. Je dis toujours, quand je fais les sermons pour les mariages, on dit toujours un peu les mêmes choses, mais il y a deux conseils que je donne toujours. Le premier, c'est de garder le chapelet en commun dans la maison. Le deuxième, c'est pas votre télévision. Regardez le monde dehors. L'esprit du monde dehors. Mais de prier ensemble, c'est quelque chose de très important. Je connais beaucoup de parents qui ont deux prières du soir. Une prière du soir avec la famille, puis une petite prière du soir entre époux le soir. Vous voyez ? Donc, pendant la prière de famille, on analyse les péchés dans la famille, les péchés des enfants, et les impatiences peut-être des parents par rapport aux enfants. Et prière du soir, on fait un deuxième petit examen de conscience, cette fois-ci sur les péchés contre mon conjoint. Péchés contre mon épouse ou contre mon époux. Et je vous assure, ça change tout. Mais n'oubliez pas que peut-être la vertu la plus importante pour qu'un mariage tienne la route, c'est la vertu d'humilité. Donc on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'il y a de plus important, dans un cas comme ça, c'est la confession. Quand un mari sait se confesser, surtout le mari sait se confesser, le mariage tiendra la route. Si le mari n'est plus capable de se confesser, ça veut dire qu'il n'est plus capable de dire pardon à Dieu, ça veut dire qu'il est incapable de dire pardon à son épouse. Et donc, travaillez là-dessus. Il faut que vous en discutiez aussi un petit peu entre vous. Dans les préparations au mariage, ça sert aussi à ça. Hein. Vous avez encore quelques mois pour certains d'entre vous avant votre mariage, qui va vite arriver. Hein. Donc, apprenez, au lieu de regarder en blanc des yeux en me disant qu'elle est la plus belle et qu'elle est la plus gentille, la plus jolie, tout et tout et tout. Bon, il ne faut pas lui dire ça, même si c'est vrai. Et il faut beaucoup plus passer votre temps à essayer de préparer le futur. Envisager déjà à l'avance les problèmes qui peuvent arriver dans le futur. Je vous assure, ça change tout. Bon, on va arrêter là parce qu'il y aura le chapelet dans 5 minutes. Et alors, à 6 heures, on a le chapelet. Donc demain, je vous donnerai encore une dernière conférence. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. À 10 heures. Donc demain matin, mercredi. Parce qu'après, il y a un certain nombre de vous qui doivent partir plus tôt. Donc il n'y aura qu'une seule conférence demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Saint-Ange gardien,
veillez sur nous.
Saint-Pélis,
priez pour nous.
Saint-Joseph,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.